Éric Pecker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat aux prochaines élections européennes sur la grande région Nord-Ouest pour la liste Lutte ouvrière. Alors, première question pour vous, c'est la question sur l'aspect démocratique. Est-ce que vous percevez un désintérêt des citoyens pour l'Europe, voire un éloignement du projet européen ? Y a-t-il un déficit démocratique et que proposez-vous en tant que candidat pour y remédier ?
Écoutez, quand on se pose la question est-ce que le Parlement européen, qu'est-ce que le Parlement européen a fait pour moi, il y a beaucoup d'électeurs et en particulier de travailleurs et de gens des milieux populaires qui trouvent aucune réponse. Hein. Qu'a fait le Parlement européen dans ma vie de tous les jours, ça reste un peu l'inconnu. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain désintérêt pour ces élections et nous on pense que au contraire il faudrait que les travailleurs se utilisent leur bulletin de vote dans ces élections européennes pour dire tout leur ras-le-bol qu'ils ont vis-à-vis de cette crise que le patronat veut leur faire payer. C'est vrai que le rôle du Parlement européen, il est faible, et en particulier toutes les mesures qui sont prises sont en fait des mesures qui sont dictées par les différents gouvernements nationaux et puis par-delà les grands groupes industriels. Et aujourd'hui, je comprends le désintérêt qu'il peut y avoir pour le Parlement européen. Dans la mesure où les grands problèmes qui se posent à la population aujourd'hui, c'est le chômage, sont les licenciements, ce sont les périodes de chômage partiel, c'est le pouvoir d'achat, c'est cette crise où en fait les patrons, les actionnaires veulent conserver leurs dividendes, leurs profits au détriment des emplois et des salaires pour les travailleurs. Et c'est pour ça que nous, on dit, c'est pas aux ouvriers de payer la crise. Il va falloir se mobiliser.
Deuxième question pour vous, Éric Pecker, c'est sur la question de l'économie, les modes de développement au sein de l'Union européenne. Alors, est-ce que l'Europe fait le nécessaire pour sortir nos économies de la crise? Et quel modèle de développement est souhaitable, selon vous, au sein de l'Union européenne?
Écoutez, sortir de la crise... Je pense qu'il n'y a pas de solution à cette crise. Cette crise, c'est la crise du système capitaliste dans son ensemble. Et donc voilà, c'est toutes les mesures qui ont été prises, notamment là par les différents gouvernements, de donner à fonds perdu des milliards, des dizaines, des centaines, des milliers de milliards d'euros aux banques. En fait, ça n'a pas aidé les banques, mais ça a surtout aidé les banquiers. Et en tout cas, ça n'a pas contribué à résoudre la crise. Ça c'est une chose. Ensuite, vous savez, l'Union européenne, elle est quand même composée de gouvernements qui sont au service chacun de leurs grands groupes industriels nationaux, et face à cela, il faudra que les travailleurs au niveau européen se défendent et défendent leurs intérêts.
Et donc sur le mode de développement au sein de l'Union européenne pour vous, pour Hello ?
Sur le mode de développement pour l'Union européenne, nous, évidemment, on est pour l'Europe, parce que les travailleurs... par-delà les frontières, s'ils étaient unis dans la défense de leurs revendications, de leurs intérêts, de leurs salaires, de leurs emplois, ça serait une force formidable. Et nous, le développement à venir de l'Europe, on le voit surtout dans une Europe qui serait débarrassée de la mainmise des grands groupes industriels et banquiers, et en fait une Europe socialiste des travailleurs.
Alors justement, on va parler d'Europe sociale et aussi d'Europe citoyenne avec cette question. Après l'Europe économique qui s'est construite depuis une soixantaine d'années, ne faut-il pas faire celle des citoyens, celle de la protection sociale, du travail, créer une société européenne par la culture et les échanges entre Européens? Éric Pecker.
Oui, ben écoutez... Parler d'Europe sociale, je pense que c'est une utopie, hein, parce que c'est tout comme on pourrait parler de la France sociale de Sarkozy, hein, et j'en passe. Non, ce qu'il faudra mettre en avant, c'est un certain nombre de revendications pour les travailleurs afin de ne pas payer cette crise et une des revendications, ça serait notamment de tirer par le haut tous les avantages, hein, tous les acquis pour les travailleurs. Par exemple, vous savez, le SMIC au niveau de l'Union européenne, l'échelle va de 1 à 17. Hein, ça va de 92 euros, je crois, en Bulgarie, à 1570 euros au Luxembourg. Et il y a quand même des pays où il n'y a pas de SMIC, de salaire minimum. Hein, sans compter... le droit pour les femmes, par exemple, hein, où l'intervention volontaire de grossesse est interdite dans 4 pays, et où même le divorce est interdit à Malte. Alors oui, il y a encore beaucoup de progrès à faire, il y a encore beaucoup de revendications à gagner et de combats à mener.
Vous parlez d'une une harmonisation sociale par le haut. Bon, les détracteurs de cette harmonisation sociale disent que c'est pas possible de le faire dans certains pays. On peut pas mettre comme ça des SMIC dans certains pays. Comment vous voyez cet argument?
Bah écoutez, ceux qui défendent l'idée que vous venez de développer, ce sont surtout ceux qui défendent les intérêts des patrons, du patronat et des grands groupes industriels et financiers. Hein, maintenant, qu'est-ce qui empêcherait que le SMIC en France soit porté à 1570 euros net comme au Luxembourg? Qu'est-ce qui empêcherait qu'en Roumanie, le SMIC soit au même niveau? Parce que, vous savez, les prix des loyers, les prix... de la nourriture et des marchandises n'est pas bien différent de ce qu'il est en France, en Allemagne ou en Roumanie ou en République tchèque. Hein, donc si ça serait d'ailleurs un élément favorable pour éliminer la concurrence que le patronat essaye d'instaurer entre les ouvriers des différents pays. Les problèmes de délocalisation, par exemple, pour aller vers des pays où les salaires sont à moindre coût, ben, disparaîtraient. Donc va falloir que les travailleurs défendent des revendications communes au travers l'Europe.
Quatrième question pour vous, Éric Pecker, c'est sur l'Europe et la mondialisation. L'Europe est confrontée à de différents défis mondiaux, défis écologiques, climatiques, énergétiques, migratoires et puis de sécurité. Comment est-ce que, selon vous, en tant que candidat, elle doit s'organiser pour préparer son avenir? Et quels sont pour vous les enjeux prioritaires? Quelles sont vos propositions?
C'est vrai qu'il y a, vous avez souligné, il y a un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes liés à l'écologie qui sont importants. Mais vous savez, la priorité aujourd'hui, c'est cette crise économique, hein, qui fait que un peu partout en Europe, mais aussi à travers le monde, hein, il n'y a qu'à voir les chiffres des chômeurs aux États-Unis, c'est 600 000 chômeurs supplémentaires chaque mois. Hein. Voilà, nous on se présente à ces élections européennes justement sur un programme de défense des intérêts politiques des travailleurs. C'est-à-dire que nous on dit c'est pas aux travailleurs de payer la crise, et s'il y en a qui peuvent changer les choses, c'est justement le monde du travail, c'est justement les ouvriers, les employés, parce que sans notre travail à nous, finalement, il n'y a plus rien qui tourne. Hein, et on pourrait imposer justement des choix différents, hein, prendre sur les profits pour imposer des augmentations de salaire, prendre sur les profits présents et passés, hein, pour interdire les licenciements, pour se partager le travail entre tous. Alors bien sûr, hein, on va nous dire mais il n'y a pas d'argent, mais c'est pas possible. Ben justement, hein, qu'on nous donne les moyens pour la population de contrôler les comptes des entreprises, hein, de pouvoir justement vérifier. Hein, vous comprenez, quand une entreprise comme Continental ou Caterpillar annonce des licenciements, on voit que ce sont des bénéfices officiels, voilà, c'est des entreprises qui font des bénéfices, et ces licenciements sont à juste titre refusés, et ça provoque un scandale. Mais il y a des tas d'entreprises où les comptes sont pas accessibles, où sous couvert de secret commercial, la population et les travailleurs n'ont pas accès aux véritables comptes des entreprises. Ben nous, on estime que face à la crise, hein, que le patronat veut faire payer au monde du travail, il va falloir qu'on impose de contrôler tout ça, parce que justement, cette crise du système capitaliste, un des gros problèmes, c'est qu'il y a du contrôle sur rien. Même le gouvernement français, même Sarkozy, dit qu'il faudrait plus de contrôle. Alors, c'est des paroles creuses, hein, mais on voit bien justement avec les centaines de milliards qui ont été donnés aux banques, ça n'a résolu aucun problème et ça a contribué au contraire à relancer la spéculation.
Vous me parlez de crise économique. Bon, la question portait plutôt sur des crises de type mondial, type crise écologique, crise climatique, crise migratoire. Est-ce que Hello a une réflexion aussi là-dessus ?
Bah oui, vous savez, les problèmes écologiques, les problèmes de climat, tout ça, c'est étroitement lié quand même, hein, soit les causes, soit les réponses qu'on pourrait y donner, c'est étroitement lié à l'organisation économique de la société. Parce que vous comprenez, quand il y a des milliers, des millions de gens qui fuient leur pays, c'est souvent pour des raisons économiques quand même. Hein, et c'est pour fuir la misère, entre autres. Ben justement, la réponse, ça serait de changer ce système, hein, qui a un pôle créer la misère, pour qu'un autre pôle, quelques milliers de familles à travers le monde, empoche des milliards.
Éric Pecker, vous êtes candidat aux prochaines élections européennes, hein, le scrutin du 7 juin,
oui.
Candidat sur la grande région au Nord-Ouest. Et vous êtes aussi travailleur chez Toyota. Vous êtes syndiqué là-bas à Toyota à Ronin.
Oui, je suis délégué là-bas, je suis ouvrier dans cette usine, oui.
Alors justement, avec vous, puisqu'on vous a sous la main, un mot sur ce conflit social à Toyota. Bon, si on lit la presse, on a l'impression que vous avez gagné.
Ah ben, c'est pas qu'une impression, oui, on a gagné. Justement, c'est l'exemple type d'un groupe automobile, hein, qui a accumulé 100 milliards de dollars de profits ces 10 dernières années, qui là pleure la bouche pleine en annonçant 3 milliards de pertes, mais quand on met ça en balance avec les 13 milliards de bénéfices de l'année dernière, ça fait quand même un solde positif de 10 milliards d'euros de bénéfices en 2 ans. Et là, la direction nous annonçait qu'on devait subir des pertes de salaire liées au chômage partiel. Donc là, il y a des centaines de travailleurs dans l'usine qui ont refusé, qui ont fait grève, et on a obtenu le paiement à hauteur de 95% du salaire net en cas de chômage partiel. Et oui, c'est une victoire, oui.